Dans son exhortation sur l'appel à la sainteté du pape François, soyez dans la joie et l'allégresse, il donne des orientations à la fin de son document sur le discernement. Voilà. Ce matin, j'ai évoqué un petit peu le discernement, que le don de nous-mêmes, ça doit se vivre avec un discernement. Donc il faut se recharger continuellement, mais en même temps, il faut aussi discerner. Et donc je vais vous parler un petit peu du discernement. Mais je ne vais pas le faire en commentant l'enseignement du pape, parce que ça aurait été un peu soporifique à cette heure-ci. Et je me méfie de cette heure. Et donc j'ai préféré prendre une histoire. Habituellement, ça marche mieux. Et je vais prendre une histoire qui est dans les Actes des Apôtres, les chapitres 10 et 11 des Actes des Apôtres. C'est intéressant parce que c'est deux chapitres où, dans le chapitre 11, Saint-Pierre raconte ce qui s'est passé dans le chapitre 10. Au niveau littéraire, c'est très lourd parce que c'est exactement la même chose dans les deux chapitres. Après, au niveau théologique et au niveau pastoral, sans doute, il doit y avoir un intérêt s'il y a une telle répétition. C'est vraiment la même chose qui est racontée dans les deux chapitres. Voilà. Alors, ce que je vais faire comme dans une pièce de théâtre avec des actes et des scènes. Acte, c'est dans le même lieu, et les scènes avec les personnages différents qui arrivent, ça vous permettra de suivre sans vous endormir, je l'espère. Mais si vous vous endormez, je ne vous en voudrai pas, j'essaierai de couper le micro si la majorité s'est endormie. Promis. Et l'acte 1, c'est à Césarée Maritime, donc c'est une ville qui a été détruite depuis, mais dont il y a des ruines importantes à l'heure actuelle, sur la côte méditerranée, de la Méditerranée. Et donc c'est Corneille, un centurion romain, qui s'est converti au judaïsme. Voilà, il devait en avoir marre de tous les dieux romains et de leurs mœurs dissolues, et il avait été séduit par le dieu unique des juifs, et il avait de l'admiration aussi pour la sagesse de la loi juive. Et donc, c'était un homme de prière, riche en bienfaits pour le peuple juif. Et puis, il reçoit, vers 3 heures de l'après-midi, une vision, l'invitant à aller chercher et faire venir chez lui Simon, surnommé Pierre, qui, à ce moment-là, est à Jaffa. Donc Jaffa, c'est une ville qui est un peu plus au sud, c'est un quartier de Tel Aviv aujourd'hui, et c'est à peu près à 50 km en dessous de Césarée Maritime. Donc Corneille envoie deux serviteurs et un soldat en qui il a toute confiance, et donc il est très probable qu'ils ont fait le trajet à cheval, parce que le lendemain à midi, ils sont déjà à Jaffa, donc ils ont fait vite, oui. Pardon, je mime. Acte 2, scène 1. Donc on passe à l'acte 2, c'est Jaffa. Donc au début, au chapitre 10, la caméra est à Césarée, et puis tac, on passe d'un seul coup à Jaffa, et là il y a Pierre qui est seul. Pierre qui, vers midi, monte prier sur la terrasse de la maison dans laquelle il est, et comme il est midi, il a faim. Voilà. Et alors il demande qu'on lui prépare de quoi manger. Et à ce moment-là, il bénéficie d'une extase tout à fait extraordinaire. Voilà, il voit une espèce de nappe qui descend du ciel, avec dedans tous les animaux de la terre, et il entend une voix qui lui dit « Pierre, tue et mange ». Voilà. Et parmi ces animaux, c'est ça qui est important, c'est qu'il y a des animaux qui sont purs et des animaux impurs. Vous savez que dans la loi juive, à partir du Lévitique chapitre 11, vous avez les catégories d'animaux, voilà, ceux qui ont le pied fendu ou ceux qui n'ont pas le pied fendu, ceux qui digèrent d'un seul coup ou ceux qui régurgitent, enfin voilà, qui ont la rumination, voilà. Et ces animaux, en fonction de ces critères-là, on peut déterminer si un animal est pur ou impur. Celui qui prend tous les critères, c'est le porc. Donc voilà, le cochon, il a tous les critères d'impureté. Et donc, afin d'éviter une impureté rituelle, ben, les Juifs ne mangent pas les animaux impurs. Et donc Pierre, depuis qu'il est tout petit, sa maman lui a dit, ça, faut pas en manger. Sinon, tu peux plus prier, tu peux plus prier après. C'est des questions religieuses hein, derrière. Voilà. Si tu manges du cochon, si tu manges du saucisson, ben après, tu pourras plus prier. Heureusement que ça a changé. Quand même. Et Pierre répond donc, il entend cette voix qui lui dit, Pierre, tue et mange. Et il dit, ben certainement pas, j'ai jamais mangé quelque chose d'impur, Seigneur, je vais pas recommencer. Hop, la nappe remonte. Et puis, la nappe redescend. Et puis, il lui dit, Pierre, tue et mange. Ben non, Seigneur. Hop, ça remonte. Et puis, une troisième fois. Trois fois de suite. Voilà. Donc là, c'est de la marteau-thérapie. Voilà. Pour essayer de faire rentrer une idée dans la tête de Pierre. Et en fait, Pierre ne comprend pas. Voilà. Il ne comprend pas du tout quel est l'intérêt de ce... Pourquoi ? Acte 2, scène 2, l'arrivée des envoyés de Corneille. Donc, les arrivées, juste à la fin de la vision de Pierre, il entend les envoyés de Corneille qui arrivent de Jaffa, et l'Esprit-Saint lui dit, « N'aie pas peur, va avec eux, suis-les, c'est moi qui les ai envoyés. » Alors Pierre les accueille. En fait, il ne repart pas tout de suite parce qu'ils ont fait quand même 50 km à cheval. Donc, il est gentil avec eux. Il les accueille chez eux. C'est des païens, mais il a le droit de les accueillir. Les juifs peuvent accueillir des païens chez eux au nom du devoir d'hospitalité. Par contre, c'est ce que dira Pierre juste après, les juifs n'ont pas le droit d'entrer dans la maison de païens. Parce que c'est des gens impurs. Vous avez ça dans la passion de Jésus. Dans l'évangile de Saint Jean, les chefs des prêtres ne veulent pas entrer chez Pilate parce que ça les aurait rendus impurs et ça les aurait empêchés de célébrer la Pâque. Il y a d'autres passages, quand le centurion aussi dit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi », c'est sans doute aussi pour des questions d'impureté rituelle.
C'est pour ça que les Juifs n'entrent pas dans une église ?
Non, pas exactement, parce que, enfin, peut-être, je ne sais pas. Moi, j'ai déjà vu des juifs qui rentraient à Maïlis. Donc, ça va. Acte 3. Pendant la nuit et sur la route. Il est bien évident que Pierre, qui est quand même quelqu'un d'intelligent, ben, il réfléchit. Qu'est-ce que ça veut dire, cette vision ? Et qu'est-ce que ça veut dire, ces païens qui viennent à la maison et qu'il faut suivre ? Voilà, il est bien évident qu'il a réfléchi à ça. Pendant la nuit, il n'a sans doute pas très très bien dormi. Et puis sur la route, bien évidemment, il a réfléchi à ça. Et alors, au cours de sa réflexion, remontent des souvenirs. Vous savez comment c'est, on commence à réfléchir à quelque chose, puis hop, il y a des souvenirs qui reviennent. Et il se rappelle que Jésus avait parlé, pendant sa vie publique, du problème des aliments qui rendent purs ou impurs. Donc c'est en Matthieu 15, 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche, voilà ce qui rend l'homme impur. Voilà. Donc Jésus avait dit ça, nous comprenons sans problème. Pierre, il n'avait pas compris. Alors il avait dit, Seigneur, tu peux nous expliquer, s'il te plaît. Et là, il s'était fait remettre en place, mais enfin, vous êtes quand même sans intelligence. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche passe dans le ventre pour être éliminé, mais ce qui sort de la bouche provient du cœur, et c'est cela qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que proviennent les pensées mauvaises, meurtre, adultère, inconduite, vol, faux témoignage, diffamation. C'est cela qui rend l'homme impur. Pour nous, c'est très clair, les aliments, ça ne nous rend pas impurs vis-à-vis de Dieu. Jésus passe, voilà, il change complètement la mentalité juive. Pour les juifs, c'était une pureté rituelle, simplement. Jésus, lui, il veut une pureté morale, ce qui est beaucoup plus exigeant, en fait. Il n'empêche qu'à l'époque, quand Jésus a dit ça, Pierre n'a strictement rien compris. Voilà. Il a continué à être fidèle aux usages juifs de son temps, comme il l'avait appris quand il était petit. Et puis en plus, c'était aussi, ça touchait toute la société. Il faut bien comprendre que c'est des usages qui touchent toute la société juive dans laquelle il était plongé. Il n'allait pas commencer à élever des cochons dans la cour. Ça aurait choqué tout le monde, quoi. Voilà. Avec la demande de Corneille, la situation est toute nouvelle. Pierre, il est invité par des païens à aller chez eux, et l'Esprit Saint lui dit « Il faut que tu y ailles ». Alors il prend conscience, Pierre, que si on interdit d'aller chez les païens, c'est parce qu'ils sont impurs, et s'ils sont impurs, c'est parce qu'ils mangent des aliments impurs. Mais si tous les aliments sont purs, eh bien alors les païens sont purs. Ok ? Il commence à réfléchir à ça. Et petit à petit, je pense que sur la route, la réflexion s'est faite de plus en plus claire, à tel point que on arrive à l'acte 4, c'est à Césarée l'arrivée chez Corneille, le centurion. Donc il arrive vers 3 heures de l'après-midi, et il n'hésite pas à rentrer chez eux sans problème. Alors que c'est tout à fait interdit pour un juif d'entrer chez des païens. Et lui, il y va d'emblée. Donc voilà, il a assez réfléchi là-dessus. Et il commence à dire « Vous savez qu'un juif n'est pas autorisé à fréquenter un étranger, ni à entrer en contact avec lui. » Vous imaginez la haine que ça doit créer. Les juifs, ils avaient du mépris pour les païens, voilà, qui étaient impurs. « Mais à moi, Dieu a montré qu'il ne fallait pas déclarer interdit ou impur aucun être humain. » C'est intéressant, il dit « aucun être humain ». Il ne dit pas « aucun aliment ». Il va plus loin. Voilà, il a fait une réflexion, ce qu'on appelle une réflexion théologique. Il est allé plus loin dans la réflexion que ce que lui donnait la vision. Et c'est pourquoi, quand vous m'avez envoyé chercher, je suis venu sans réticence. Et donc, il se démarque vraiment carrément de la pensée juive de son temps. Voilà. Et il entre donc chez ses païens. Et il ouvre la porte à l'évangélisation des païens, comme on va le voir par la suite. J'insiste là-dessus parce que pour nous ça paraît assez évident, mais pour Pierre c'était extrêmement difficile de faire ça, parce que depuis qu'il est tout petit, il a appris qu'il fallait pas manger d'aliments impurs, et que ceux qui mangent des aliments impurs, ce sont des gens qui sont devenus impurs, et que à partir du moment où on touche simplement quelque chose qui est impur, on devient impur soi-même. Donc en fait, il est en train de violer quelque chose qui touche sa culture même. Voilà. C'est loin d'être évident, en fait. Oui, il y a cette idée aussi, mais oui. Voilà. Pourtant, s'il avait été attentif à l'enseignement de Jésus pendant la vie publique, normalement, il aurait dû comprendre tout de suite, quoi, en fait. Mais il n'a pas réussi à comprendre. On voit d'ailleurs, c'est intéressant, dans l'évangile selon saint Marc, l'évangile selon saint Marc, c'est la mise par écrit des catéchèses de Pierre. Donc dans l'évangile de saint Marc, on voit plein de choses qui viennent de saint Pierre en direct. Et dans le passage où il est question des interdits alimentaires, il y a une petite incise que Pierre ajoutait chaque fois qu'il racontait cette histoire. Quand Jésus dit, voilà, êtes-vous donc sans intelligence vous aussi? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme en venant du dehors ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, pour être éliminé? Et là, Pierre, chaque fois qu'il racontait cette histoire, et il disait, c'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. On n'a ça que dans l'évangile de saint Marc. C'est vraiment une phrase de saint Pierre qu'il ajoutait au développement de Jésus à chaque fois. Parce que pour lui, il avait fallu des années et des années pour comprendre ça. Je fais une petite remarque en passant. Pierre, il a pris des années pour comprendre cette parole de Jésus. Peut-être que Dieu essaye de me faire comprendre quelque chose depuis des années. Que je ne comprends pas. Voilà. Et que, aussi, on peut appliquer ça à nos rapports avec les autres. Peut-être que quelqu'un m'a dit quelque chose que je n'ai pas comprise. Et peut-être que j'ai dit quelque chose à quelqu'un et qu'il n'a pas compris. Et qu'il faut avoir la patience qu'il comprenne. Voilà. Voilà. Dieu, il a de la patience avec nous. Quoi. Avec Pierre, ça a été, c'est des années. Hein. On ne sait pas exactement combien de temps, mais c'est des années et des années. On est toujours à Césarée, chez Corneille, et acte 4, scène 2, l'intervention de Corneille. Pierre, il est arrivé, il est rentré, il a dit, voilà, n'ayez pas peur, je suis juif, mais je rentre chez vous sans crainte. Et, mais il n'a pas commencé à les évangéliser, il attend de voir ce qu'ils veulent. Et donc il y a Corneille qui dit, ben voilà, moi j'ai reçu une vision il y a 3 jours, et on m'a dit de venir te chercher, et voilà, tu as des choses à nous dire, il faut que tu nous les dises. Voilà. Il a rassemblé tous ses amis et toute sa famille, Corneille, et ils sont avides de la parole de Pierre. Ça serait bien que les gens de notre région soient avides aussi de la parole de Dieu. Ça nous changerait les choses quand même. Acte 4, scène 3, discours de Pierre. Donc il y a un discours de Pierre. C'est important parce que c'est le premier discours à des païens. Voilà. Je pense que dans la majorité d'entre nous ici, nous sommes tous des païens, qu'il y a pas de juifs, enfin, peut-être qu'il y a des juifs parmi nous, mais on est pratiquement tous des païens, et que, enfin des descendants des païens. Voilà, c'est la première fois que la parole de Dieu est adressée à des non-juifs. Alors Pierre donne ce qu'on appelle le kérigme, c'est-à-dire le cœur de la foi, et il raconte ce qui s'est passé entre le baptême et l'ascension. Voilà. Dans tous ses discours, Pierre, c'est ça qui l'intéresse, entre le baptême et l'ascension. Et l'évangile de Saint-Marc, qui est la catéchèse de Pierre, c'est entre le baptême de Jésus et l'ascension. Voilà, pour Pierre, c'est ça qui est vraiment le plus important. Voilà, il donne l'évangile, et hop, poum, l'Esprit-Saint qui tombe sur tous les gens qui sont là. On ne sait pas exactement comment ils ont pu, on ne sait pas quelle a été la manifestation de l'Esprit-Saint, s'ils se sont mis à danser, à lever les mains vers le ciel. Enfin, il y a eu quelque chose de très visible que Saint-Pierre a reconnu, et que il y avait 6 disciples qui étaient avec Saint-Pierre, ils ont vu, ben, ils ont reçu l'Esprit-Saint comme nous. Voilà. Et donc ils sont tout étonnés, surtout les autres, hein, plus que Saint-Pierre apparemment. Et donc ils reçoivent l'Esprit Saint, et puis Pierre voit ça et se dit, s'ils sont purs, s'ils reçoivent l'Esprit Saint, faut que je les baptise aussi, quoi. Voilà. Et il baptise pour la première fois. C'est intéressant parce que c'est pas Dieu qui lui a dit, va à Césarée baptiser les premiers chrétiens. Dieu le laisse réfléchir. Voilà. Et Pierre se dit, il faut que je les baptise, ces gens-là. Et donc, c'est les premiers chrétiens non-juifs qui sont baptisés. Acte 5. Là, la caméra se trouve à Jérusalem. Acte 5, scène 1, ça chauffe. C'est-à-dire que les premiers chrétiens, les chrétiens de Jérusalem, s'insurge contre Pierre, qui a fréquenté des païens. Il a même mangé avec eux. Ça, c'est atroce. Il a peut-être mangé du saucisson, des rillettes et du jambon. Quoi. Oh, quelle horreur ! Voilà. Tout à l'heure, j'ai mangé avec notre évêque. Et ben, il y avait du jambon de Bayonne. C'était bon, d'ailleurs. Je ne regrette pas, quand même. Et je ne suis pas impur. Voilà. Mais... pour les premiers chrétiens, c'était des chrétiens, ceux-là. Les premiers chrétiens de Jérusalem, c'est atroce ce qu'il a fait. Il a mangé avec des païens. Et on n'a jamais fait comme ça. Il dérange tous les usages. Qu'est-ce que c'est que cette idée d'annoncer l'évangile à des païens ? Et là, en fait, ces juifs chrétiens qui sont des gens très bien, par ailleurs, ils s'insurgent contre Pierre, mais très violemment d'ailleurs, en fait. Et puis, ils sortent des arguments, il y a des arguments théologiques. Jésus, il a bien dit, c'est Matthieu 15, 24, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. » Et quand il a envoyé les apôtres en mission la première fois, c'est Matthieu 10, c'est un petit peu avant, « Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Que les Juifs. Jésus, il a dit qu'il faut s'occuper que des Juifs. Donc tu es en train de changer la religion, là. Est-ce qu'on était vraiment... En fait, c'était quand même une question importante. Hein. Est-ce qu'on était vraiment fidèle à Jésus en allant annoncer... Pour nous, ça nous paraît très... L'annoncer l'évangile aux païens. Nous, ça nous paraît archi-clair comme question. Mais pour les premiers chrétiens, c'était une question très difficile, en fait. Voilà. On a... Là, c'est... En fait, c'est les premiers intégristes de l'Église. Il faut rien bouger. Ça, on a toujours fait comme ça, donc on ne change pas. Et alors la réponse de Pierre est quand même très intéressante parce que, enfin sa façon de répondre, il aurait pu faire péter ses galons, comme on dit dans l'armée, en disant « Moi, je suis le pasteur suprême, le Seigneur il m'a donné toutes ses brebis, c'est moi qui décide et vous obéissez et c'est tout. » En fait, il ne fait pas du tout comme ça, il essaye de les faire adhérer à la décision qu'il a prise. Et de leur montrer que ce n'est pas sa propre décision, même si c'est sa décision, mais que sa décision, elle est motivée et qu'elle est l'objet, elle a été l'objet d'un véritable discernement. En fait, c'est ça qui est, je trouve, très intéressant dans ce texte, c'est qu'on voit Pierre confronté à ce qui nous arrive tous les jours, à faire un discernement. Et donc, très humblement, il expose point par point toutes les étapes de son discernement. C'est pour ça que dans le chapitre 11, il raconte tout ce qui s'est passé dans le chapitre 10. Et les derniers mots de son discours donnent le ton de toute sa défense. Il dit « Qui étais-je, moi, pour empêcher l'action de Dieu ?» Voilà. « Qui étais-je, moi, pour empêcher l'action de Dieu ?» Il est très humble, Pierre. Ça, c'est un signe excellent d'un bon discernement. Quelqu'un qui discerne, et qui discerne selon Dieu, il est toujours humble. Il n'est pas sûr de lui. Qui étais-je, moi, pour faire obstacle à l'action de Dieu ? Les gens qui sont absolument sûrs et certains de leur décision... Voilà. Encore que, il y a un don de l'Esprit-Saint qui s'appelle le don de conseil, le don de conseil qui nous fait prendre les bonnes décisions. Ça, c'est un don qu'on peut demander avec ardeur. Mais on s'aperçoit dans la vie des saints que les saints qui exercent le don de conseil, en fait, ils n'ont pas une certitude humaine. C'est une certitude qui vient de Dieu. Et ce n'est pas de l'ordre « je suis sûr et certain de ce que j'ai décidé ». C'est une certitude, oui, voilà, on ne va pas faire autrement. Mais c'est une certitude qui ne leur vient pas de leur force à eux-mêmes. Voilà. C'est clair ce que je dis là ? Acte 5, scène 2, Pierre s'explique. Donc il fait un discernement. Voilà. Le pape François, dans son exhortation « Soyez dans la joie et l'allégresse », il donne quelques orientations sur le discernement. Notez qu'il n'est d'ailleurs pas attaqué pour avoir baptisé des païens, il est attaqué parce qu'il a mangé avec eux. C'est intéressant, c'est sur les usages qu'il est attaqué, pas sur la décision finale en fait. Voilà, donc je vais simplement mettre maintenant un petit peu en parallèle l'enseignement du pape François et la façon de Pierre et la façon de faire de Pierre. Voilà, parce qu'en fait, Saint Pierre est à l'avance un disciple de François, ou réciproquement. Voilà. Au ciel, je pense qu'ils se congratuleront mutuellement. D'abord, je note que tout a commencé par un temps de prière. Pierre qui dit « J'étais dans la ville de Jaffa en train de prier. » Et le pape François enseigne que « Il n'est pas possible de se passer du silence de la prière attentive pour mieux percevoir ce langage du Seigneur. » Donc, premier bon point pour Pierre, il prie. Voilà. Quelqu'un qui, en état de prière habituel, il va avoir de la facilité pour discerner. Je n'ai pas du tout la prétention d'être exhaustif sur le discernement. D'ailleurs, le pape François non plus n'est pas exhaustif sur le discernement. Pierre, donc, il est confronté à quelque chose de tout à fait nouveau. Aller chez des païens, manger avec des païens, leur annoncer la parole de Dieu, les baptiser. Les questions arrivent en cascade, les unes après les autres. Comment il doit réagir ? Et donc, François, il évoque justement l'importance du discernement en confrontation avec la nouveauté. Il dit « Le discernement devient particulièrement important quand apparaît une nouveauté dans notre vie. Et qu'il faudrait alors discerner pour savoir s'il s'agit du vin nouveau de Dieu ou bien d'une nouveauté trompeuse de l'esprit du monde ou de l'esprit du diable. » Ça, au moins avec le pape François, c'est ça qui est super, je trouve, c'est sa clarté. Il faut discerner, il y a trois esprits qui peuvent... une nouveauté, elle peut être amenée par trois esprits différents. L'esprit de Dieu, l'esprit du monde, l'esprit du diable. L'esprit de Dieu, ça va, on sait qui c'est. L'esprit du diable, on connaît aussi. L'esprit du monde, c'est toutes les sollicitations du monde. Tout ce qui est de l'ordre de tout ce qu'impose la publicité, tout ce qu'impose le bien-être, tout ce qu'impose la mode. Voilà, tout ça, c'est l'esprit du monde. En fait, dans notre vie, ces trois esprits ont de l'impact continuellement, quoi. Et voilà, il faut discerner si cette nouveauté qui arrive dans ma vie, ça vient de Dieu, du diable ou du monde. Il faut bien voir que pour Pierre, la solution la plus simple, ça aurait été de dire, bon, on continue comme on a toujours fait. On ne change rien. On est sûr de ne pas se tromper. Et là, le pape dit bien, pour Saint-Pierre, s'il n'avait pas changé les usages de l'Église à ce moment-là, il aurait été infidèle à Dieu. Les forces du mal nous induisent parfois à ne pas changer, à laisser les choses comme elles sont, à choisir l'immobilisme et la rigidité. Nous empêchons donc le souffle de l'esprit d'agir. Là, je vous cite le pape François. Parfois, on ne veut pas bouger parce qu'on a peur, parce qu'on a peur des réactions des autres. Alors attention, hein, toute nouveauté n'est pas forcément bonne, quoi. C'est pas parce que y a des nouveautés trompeuses. Alors pour discerner entre les différents esprits, le pape invite à repérer ce qui se passe en nous. Examiner ce qu'il y a en nous, désir, angoisse, crainte, aspiration. Là, il se fait le disciple de Saint Ignace, bien sûr, qui dit que il faut sentir et reconnaître en quelque manière les diverses motions qui se produisent dans l'âme, les bonnes pour les recevoir et les mauvaises pour les rejeter. Ça, c'est très important dans la vie spirituelle, de prendre conscience de ce qui se passe en soi. Prendre conscience que là, en fait, ben là, j'ai peur. Ou bien, là, j'ai tel désir. Ou bien, j'ai j'ai eu une certaine appréhension de la réaction de quelqu'un. Prendre conscience de ça, de ces mouvements qui habitent en soi, ça permet de prendre de la distance par rapport à eux. Voilà. Le fait de les nommer nous permet d'avoir un peu plus de distance et de mettre la lumière de la raison là-dessus. Si je ne prends pas de la distance sur mes émotions, en fait, je suis forcément à la remorque de mes émotions. C'est-à-dire, ça me plaît, je le fais, ça me plaît pas, je le fais pas. C'est clair ce que je dis là ? Pour le cas de Pierre, il est bien évident qu'il avait une certaine crainte de la réaction des autres juifs, qu'il avait aussi sans doute du dégoût pour la cochonaille, mais il ne s'est pas laissé diriger par ses émotions intérieures. Il a pris du recul. Voilà. Il pouvait aussi avoir une aspiration à annoncer l'évangile à toutes les nations. Le pape François incite aussi à repérer les signes des temps. Il faut repérer ce qui se passe en dehors de nous. Reconnaître les chemins de la pleine liberté. Vérifier tout ce qui est bon, retenez-le. Et donc la Pierre aussi, il est bien évident qu'il a réfléchi sur ce qui se passait. Il a vu... Il s'est rappelé l'extase, trois fois l'extase, puis les envoyés de Corneille qui arrivent en même temps, puis l'arrivée dans la maison de Corneille, la façon dont les gens écoutent et sont complètement attentifs à la parole de Dieu. Donc tout ça, c'est des signes qui viennent de l'extérieur, qui l'aident à discerner que ben là, il faut que je les baptise. Et en même temps... Il a réfléchi aussi. Bien sûr, il y avait les paroles de Jésus qui disaient « Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël », mais après la résurrection, Jésus leur avait dit aussi « Allez dans le monde entier, annoncez l'évangile à toutes les nations. » Voilà. Et il y avait certaines personnes qui avaient oublié ces paroles de Jésus après la résurrection. On peut faire le choix dans nos paroles du Seigneur. Hein. Donc, là encore, pour discerner, se mettre à l'écoute de la parole de Dieu qui souvent éclaire la situation. Et puis, dernier point qui est important pour le discernement selon le pape, non pas le dernier, l'avant-dernier point selon le pape François, c'est que c'est la souplesse de Pierre. Pierre s'est laissé déranger. Il ne savait pas où tout cela allait le conduire. Mais il a suivi la lumière qui lui était donnée pas à pas. Et là, je vous lis ce que dit le pape François. « Seul celui qui est disposé à écouter possède la liberté pour renoncer à son propre point de vue partiel ou insuffisant, à ses habitudes, à ses schémas. » Donc Pierre, il était vraiment dans une disposition d'écoute. Quand on est sûr de soi, quand on est sûr qu'il faut toujours continuer à faire comme on a toujours fait, il est bien évident qu'on ne peut pas discerner selon Dieu, en fait. Il y a une souplesse à avoir pour pouvoir écouter ce que Dieu nous, ce vers quoi Dieu nous conduit. De la sorte, il est vraiment disponible pour accueillir un appel qui brise ses sécurités. Voilà, ça c'est un appel qui brise les sécurités. Mais qui conduit à une vie meilleure, je l'espère. Car il ne suffit pas que tout aille bien et que tout soit tranquille. Voilà. Tout va bien, tout est tranquille, donc faut surtout rien bouger. Eh bien non. Voilà. Dans la même optique, le pape dit un peu plus loin, « Il ne s'agit pas d'appliquer des recettes ni de répéter le passé, puisque les mêmes solutions ne sont pas valables en toutes circonstances. Et ce qui sera utile dans un certain contexte peut ne pas l'être dans un autre. Le discernement des esprits nous libère de la rigidité qui n'est pas de mise devant l'éternel aujourd'hui du ressuscité. C'est très gênant dans la vie chrétienne parce que Dieu ne nous laisse pas tranquilles. Voilà. Il ne nous laisse pas ronronner longtemps, ça peut arriver, mais pas longtemps en tout cas, à refaire toujours les mêmes choses. Voilà. Il appelle à du nouveau, et ça souvent en fait. C'est ce qu'on voit dans la vie de tous les saints en fait. Voilà. Mais attention, toute nouveauté ne vient pas de Dieu. Voilà. Pour discerner. Un dernier petit point que j'évoque, c'est la présence des six frères. Quand Pierre fait son apologie, il mentionne explicitement la présence de six frères qui l'ont accompagné depuis Jaffa jusqu'à Césarée. Ça veut dire qu'il n'a pas pris la décision tout seul. Il s'est entouré de leurs conseils. Bien évidemment, il leur a parlé. Il leur a dit, mais qu'est-ce que vous en pensez, quoi ? Voilà. Et simplement le fait d'exprimer ce qu'on porte à quelqu'un d'autre, ça permet de clarifier ses idées et puis de prendre conseil. Dans la règle de Saint-Benoît, pour le Père Abbé, Saint-Benoît dit « Fais tout avec conseil et tu ne t'en repentiras pas. » Voilà. D'ailleurs, c'est sorti du livre de Sirac le Sage. Voilà. Reste que c'est Pierre qui prend la décision de baptiser, mais cette décision qu'il a prise de baptiser des païens, en fait, il l'a prise au bout d'un long discernement. Acte 5, scène 3, on se calme. Voilà. Les paroles de Pierre apaisent les Juifs de Jérusalem. Il a réussi à les faire adhérer à sa décision, en montrant que ce n'était pas sa propre décision, que c'était le fruit d'un discernement avec l'aide de Dieu. C'est très beau ça, parce que pour moi, c'est vraiment l'exemple parfait d'un chef chrétien qui prend une décision, mais qui ne la prend pas parce que ça lui plaît, qui la prend parce qu'il est serviteur de la communauté dont il est le chef, et qu'il a discerné avec la lumière dont il bénéficiait, que pour la communauté, là, maintenant, la décision à prendre, c'était celle-là. Et qu'il a ouvert la voie à une nouveauté dans l'Église, qui nous paraît, maintenant, voilà, ça fait partie de l'Église, d'aller annoncer l'Évangile à tout le monde. Mais là, c'était une nouveauté toute nouvelle, et qui a changé complètement la vie de l'Église à ce moment-là. Voilà. Je vous laisse relire ces chapitres 10 et 11 des Actes des Apôtres, voilà, parce que pour moi c'était vraiment une très belle lumière sur voilà, un discernement difficile, voilà, que Pierre, Dieu ne lui a pas tout donné d'un seul coup, il l'a laissé réfléchir, voilà. Il lui a donné un cerveau pour réfléchir, un cœur pour aimer, comme à nous. Et en fait, Dieu pourrait effectivement nous téléguider et nous dire en permanence « c'est ça que tu dois faire, c'est ça que tu dois faire ». Et non, il préfère que ce soit nous qui inventions à chaque fois ce qui est le mieux ici et maintenant. Et je trouve que c'est beaucoup plus beau de vivre la vie chrétienne comme ça, comme une recherche personnelle où voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui est le mieux ici et maintenant. Et là, au bout du discernement que je viens de faire, je discerne qu'il est bon que je me taise. Merci de votre attention.